Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ce n'est plus le moment de continuer à regarder ailleurs, a déclaré récemment le pape François à propos de la crise écologique que traverse le monde. Un appel à la conversion fort et profond que le pape a mis au calendrier de tous les fidèles, si je puis dire, puisque cette année est celle de Laudato Si, son encyclique sociale sur le sujet. La conversion écologique pour de vrai, c'est un peu le thème de l'émission de ce matin, avec un parcours spirituel inspiré des exercices de Saint Ignace de Loyola, pardon, une manière de se mettre concrètement en route et de trouver des mobiles intérieurs, comme le dit le pape, suffisamment puissants pour changer le monde. Parcours spirituel de conversion écologique, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec vous, Jérôme Gué, vous êtes religieux jésuite, délégué du provincial à l'apostolat social pour la province Europe occidentale francophone. C'est en gros la France et la Belgique, et donc auteur ou co-auteur d'un ouvrage, Parcours spirituel pour une conversion écologique, paru aux éditions Vie chrétienne et Fidélité. Bonjour.
Bonjour.
Ça fait du bien, on a un mardi matin, de faire une introduction où on est invité à changer le monde. Je me dis qu'on vieillit pas trop quand on a encore quelques espoirs ou quelques ambitions à nos âges, et surtout peut-être, enfin, au vôtre, puisque vous êtes un tout petit peu plus âgé que moi. On va donc parcourir ce parcours. J'aimerais qu'on commence par les déclarations du pape François, en tout cas celles que j'ai notées, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. C'était donc le 5 juin dernier. Chaque année, le pape François, cette journée a lieu dans un pays différent. Cette année, c'était en Colombie. Le pape François s'est adressé au président colombien et lui a dit, entre autres, « Nous ne pouvons pas prétendre être en bonne santé dans un monde malade », s'adressant évidemment à nous tous. « Les blessures infligées à notre mère, la terre, sont des blessures qui saignent en nous aussi ». Et le pape François, également un peu plus loin, « Ce n'est plus le moment de continuer à regarder ailleurs ». On a l'impression que le pape François monte en... on va dire, j'allais dire, en puissance, quant à cette préoccupation écologique et sociale. Est-ce que c'est votre sentiment ?
Oui, tout à fait. Je pense que le pape François est très préoccupé par la situation du monde dans son rapport à l'environnement et au vu de la destruction de la planète. Je pense que il est à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain, un peu partout, très sensible à la vie des gens et aux gens les plus modestes et ceux qui souffrent déjà du changement climatique et des répercussions de la destruction de l'environnement. Donc, c'est pas du tout étonnant qu'il porte cela et qui, de sa position, il pense pouvoir essayer de mobiliser l'ensemble des êtres humains, de l'Église, bien sûr, et bien au-delà du monde entier sur cette question-là, bien sûr.
Si vous deviez poser un peu les bases de la réflexion, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une question vitale pour l'homme ? Est-ce qu'on peut dramatiser, on va dire, le sujet à ce point ?
Ah oui, moi je pense que c'est une question vitale. Je pense que quand on dit dramatiser, à la fois c'est une invitation à se mettre en mouvement, mais c'est surtout pas de se mettre sur les épaules quelque chose qui nous écraserait et qui ferait qu'on serait tétanisé. Voilà. Mais effectivement, il y a un enjeu vital pour l'homme, oui, bien sûr.
Alors, si on commence votre parcours spirituel pour une conversion écologique que vous avez coécrit, je vous laisserai présenter un peu plus tard l'auteur. Dans votre introduction, vous commencez par cette phrase en citant le pape François. « S'il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands, la crise écologique est un appel à une conversion intérieure. S'il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands, la crise écologique est un appel à une conversion intérieure. » C'est une drôle de phrase. Est-ce que vous pouvez l'expliciter ?
En fait, je pense que l'analyse du pape, c'est que la société dans laquelle on est, avec son organisation, on va dire, thermo-industrielle, avec son rapport à la nature comme quelque chose, avec un instinct un peu de prédation, on utilise tout pour fabriquer des objets en masse, consommer énormément. Son analyse, c'est que dans le fond, derrière tout cela, il y a un manque de profondeur. Voilà. Il y a un manque de profondeur intérieure, personnelle. Et donc, il invite à retrouver cette profondeur qui fait que, du coup, on ne va pas se réfugier, se précipiter dans certaines formes de consommation, au moins pour certains, parce que tout le monde n'y a pas accès, pour combler ce vide. Voilà. Et donc, il invite à enrichir cette intériorité. Et pour lui, c'est certainement un lieu qui permettrait de nous sortir de ce style de société et qui a des conséquences dramatiques.
Alors, si on reprend aussi un autre passage de votre introduction, qui est un passage aussi de Laudato Si, je le citais en introduction. Dans le fond, c'est d'abord à une conversion spirituelle profonde que le pape François, enfin auquel le pape François appelle tout à chacun, y compris donc les chrétiens. Il y a cette phrase « Il ne sera pas possible en effet de s'engager dans de grandes choses seulement avec des doctrines, sans une mystique qui nous anime, sans des mobiles intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l'action personnelle et communautaire. » C'est presque à une révolution mystique en fait à laquelle on semble être appelé à l'entendre.
Oui, alors le mot mystique peut paraître peut-être un peu fort. Je crois qu'il nous invite à entrer dans une autre manière de considérer la vie, et notamment le rapport à la nature, et de rentrer dans un autre style de vie qui va être habité par quelque chose. Voilà. Il nous invite à sortir d'une certaine superficialité où on est en train de courir après les choses, les unes après les autres, sans arrêt, sans jamais vraiment habiter ce qu'on vit, sans jamais vraiment habiter les relations qu'on a, sans jamais vraiment habiter notre relation à la nature.
Il y a une autre citation aussi du pape, toujours dans le même extrait, à propos des chrétiens. « Nous, les chrétiens, nous n'avons pas toujours recueilli et développé les richesses que Dieu a données à l'Église, où la spiritualité n'est déconnectée ni de notre corps, ni de la nature. » Si vous l'avez cité, c'est que ça vous semblait important. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet ? Les chrétiens ont autant que les autres, voire peut-être plus, leur part de culpabilité à assumer ou...
Alors, j'utiliserai pas forcément le mot culpabilité, mais c'est vrai qu'il y a une richesse dans la tradition chrétienne. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment pris en compte et développé, et du coup, on s'est laissé entraîner dans la culture dominante de nos sociétés, au moins occidentales. Et voilà, on s'est un peu laissé entraîner. Il y a une richesse dans la culture chrétienne, dans la tradition chrétienne à retrouver, notamment, et je l'ai largement cité dans l'ouvrage, toute la tradition franciscaine, par exemple. C'est une richesse extraordinaire pour notre monde aujourd'hui, pour corriger le tir et nous remettre un peu dans les rails, oui.
Alors, ce parcours, on va s'y arrêter. C'est un parcours donc en 8 étapes. S'émerveiller de la nature, se recevoir de Dieu avec toutes les créatures, un peu plus loin, reconnaître mon péché contre la création, appel à la conversion pour la sauvegarde de la création, joie et espérance dans un monde renouvelé. C'est donc une retraite, quelque part, que vous nous proposez. Et votre ouvrage pourra servir de base à nombre d'entre elles. Si on reste, on va dire, sur les préambules, il y a une expression qui circule dans l'Église qui est les structures de péché. On laisse entendre par là donc qu'il y aurait des formes de péchés sociaux auxquels on participerait presque malgré nous-mêmes par moment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces péchés sociaux, ces structures de péché?
Alors en fait, il y a eu toute une réflexion il y a 20 ou 30 ans sur cette question-là, dans l'Église, notamment avec Jean-Paul II, et qui est très intéressante pour aujourd'hui, face à la question de l'écologie. En fait, l'idée de structure de péché, c'est-à-dire que la société s'est organisée à des mécanismes, pour s'organiser, se gérer. Mais certains de ces mécanismes portent préjudice à la nature, à l'humanité, à des rapports cordiaux entre les humains. Et c'est ce à quoi nous faisons face aujourd'hui. Et la réflexion qui a eu lieu alors, c'était de dire, nous ne sommes pas écrasés par ces structures qui deviendraient complètement autonomes, Il y a toujours à la racine une responsabilité humaine. Et on pourrait dire autrement, il y a toujours des marges de manœuvre. C'est-à-dire, les structures, elles ne sont pas nées d'une sorte de déterminisme historique qui ferait que ce serait une fatalité. Voilà. L'Église dit, mais non, derrière, il y a des hommes, et il y a des hommes qui ont des responsabilités, des possibilités d'agir, et qui peuvent du coup transformer ces structures.
Est-ce que vous pouvez citer des exemples? Parce que là, en l'occurrence, donc, on parle d'un certain rapport à la nature,
oui.
D'un système de domination et d'exploitation éhonté dans lequel, qui impacte l'homme et les plus pauvres. L'Église, on a cité d'autres, des structures de péché. Si on devait en citer deux ou trois, ça serait quoi?
On pourrait dire tout le système économique avec la maximisation des profits et au détriment du respect de la nature, par exemple. Là, on a une structure qui fait que on ne considère plus l'entretien de la nature dans son long terme et on considère la maximisation immédiate du profit et donc on n'arrive plus à considérer le long terme. Là, il y a une structure en tant que telle sur l'ensemble de l'organisation économique et financière qui fait que ça crée des dommages considérables. On peut considérer l'économie d'une autre manière et ne pas vouloir un profit maximum. Et donc les marges de manœuvre là vont être à tous les niveaux de la chaîne. C'est-à-dire quand j'ai un petit peu d'argent et que je le place en banque, qu'est-ce que je vais demander à mon banquier? Je vais lui demander un rapport maximum ou bien je vais lui demander que cet argent soit pour financer des activités économiques qui sont respectueuses des salariés et de l'environnement, par exemple. Et ensuite, on peut continuer dans la chaîne, le chef d'entreprise, dans ses décisions, et la personne qui aussi exécute ou travaille sur une chaîne de production. Enfin voilà, à tous les niveaux, on peut agir.
Comment vous est venue l'idée de ce parcours, Jérôme Gay?
En fait, dans ma responsabilité pour l'apostolat social pour l'ensemble des jésuites, j'ai aussi la responsabilité de la transition écologique au sein de la Compagnie de Jésus. Et donc, on travaille sur tous les plans, la transformation de nos modes de vie, la manière de s'organiser, tout ça, et les propositions spirituelles qu'on peut faire et tout ça. Et on édite chaque mois une fiche qui propose sur un point très concret une évolution de notre manière de vivre et de vivre la spiritualité. Et donc une année, on a proposé un parcours, puisque les jésuites, chaque année, font une retraite de 8 jours, généralement selon les exercices. Donc on a proposé un parcours. Ce parcours a été repéré et du coup, le provincial, le responsable des jésuites, m'a demandé, avec Éric Charmetan, qui est le co-auteur, d'animer une retraite pour les compagnons jésuites à l'été 2018, sur justement qui puisse amener, aider à une conversion écologique à partir des exercices spirituels. Et à l'issue de cette retraite qui a été appréciée,
d'écrire
le livre.
Voilà. Donc Éric Charmetan, c'est donc le co-auteur. Il est lui-même jésuite, il est philosophe, il enseigne au Centre Sèvres, la faculté jésuite à Paris. Il enseigne entre autres l'éthique et l'anthropologie évolutionniste, la philosophie de la nature et l'écologie profonde. On en reparlera. On va faire une première pause, on vous retrouve après. On va se plonger dans ce parcours. On ne va pas le faire in extenso, mais en tout cas, on va donner quelques aperçus qui, je l'espère, laisseront entrevoir surtout l'émerveillement auquel on est appelé plutôt que la conversion culpabilisante qui devrait être la nôtre.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Parcours spirituel de conversion écologique, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Et nous sommes avec vous, Jérôme Guier, vous êtes religieux jésuite, délégué du provincial à l'apostolat social pour la province Europe occidentale francophone, et donc auteur d'un ouvrage, Parcours spirituel pour une conversion écologique, paru aux éditions Vie chrétienne et Fidélité, co-auteur, puisque vous l'avez écrit avec l'un de vos frères jésuites. On va donc prendre le temps de s'arrêter sur certains points du parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire la manière dont il a été conçu ? Est-ce que dans le fond, c'est un guide pour tout un chacun, ou est-ce qu'il s'adresse d'abord à des organisateurs de retraites, et particulièrement de retraites ignatiennes, Jérôme Guier ?
En fait, c'est un parcours, oui, qui s'adresse absolument à tout le monde. Bien sûr, les premières personnes qui peuvent l'utiliser, c'est les personnes qui ont envie de faire une retraite de 8 jours, selon les exercices de Saint Ignace, et qui ont là un parcours clé en main qui leur permettent de faire cette retraite avec des propositions un petit topo pour chaque jour et des propositions de méditation avec des textes à méditer et des petits bouts de textes à lire. Voilà. Mais ça peut être aussi pour des personnes qui ont envie d'avancer sur ce thème-là, personnel, de manière intérieure, et donc qui peuvent prendre cet ouvrage-là et faire une méditation tous les jours en suivant le parcours, et ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, selon le rythme auquel les personnes veulent aller. Et ensuite, c'est aussi de la matière pour réfléchir sur un thème. Il y a 8 thèmes. Donc, réfléchir sur un thème pour soi ou pour monter une animation pendant un week-end sur un des thèmes. Voilà, c'est une sorte de manuel avec plein d'éléments qui permettent de faire vivre ou de vivre soi-même une démarche intérieure concernant l'écologie.
Voilà, vous dites entre autres, toujours dans votre introduction, ce parcours spirituel se veut être un temps fort de rencontre avec Dieu. Il est un espace ouvert dans ma vie pour creuser mon désir. Et ce désir, et donc c'est, on va dire, un désir de plus grande communion avec Dieu qui passe par cette conversion. Alors si on s'arrête sur le deuxième chapitre, se recevoir de Dieu avec toutes les créatures, je vous proposais donc de s'arrêter là. Vous commencez par rappeler que le rapport que l'homme a à la création est aujourd'hui très différent de celui qu'on avait pu avoir par le passé. Vous dites la chose suivante, l'homme biblique ou l'homme du XIIIe siècle était dans l'évidence d'une présence divine, et cette présence divine, elle se voyait dans la création. J'ai souvenir d'avoir entendu dans un cours d'histoire de l'art que l'enseignant a notifié que sur les cathédrales, les personnages ont les yeux ouverts parce qu'ils contemplent Dieu à travers la création et ils ne ferment pas les yeux pour essayer d'abord de le trouver à l'intérieur d'eux-mêmes. Rappelez-nous cette époque fort longue où l'homme avait un autre rapport en fait à la création.
Il y avait une sorte d'évidence de Dieu créateur, Dieu à la source de tout le créé, de toutes les éléments de la nature. Donc c'était une sorte d'évidence pour nos ancêtres. Aujourd'hui, avec tout l'avènement de la science, on arrive à décrypter et à comprendre toute l'évolution, d'où viennent tous ces éléments de la nature. Et du coup, de comprendre Dieu créateur, Dieu à l'origine de tout cela, est beaucoup plus difficile pour nos contemporains aujourd'hui. Nos anciens, ça ne posait pas de difficulté.
On pourrait dire que ce serait l'inverse, parce qu'on comprend les lois en fait, de la création, mais on pourrait aussi s'émerveiller tout autant, non de...
On peut s'émerveiller tout autant, je suis bien d'accord, mais il y avait une sorte d'évidence pour les anciens, et aujourd'hui l'évidence elle est moins grande quand même, c'est-à-dire pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire Dieu créateur, c'est moins facile.
Alors vous continuez aussi dans ce chapitre, se recevoir de Dieu avec toutes les créatures, dans votre propos, par, on va dire, remettre l'homme à sa place. Il y a un encadré, nous sommes cousins avec des ancêtres et de l'ADN commun. Vous dites la chose suivante, il y a un ancêtre commun universel à toute forme de vie qui a vécu il y a au moins 3,5 milliards d'années. Puis vous continuez, nous partageons 35% de notre ADN avec les arbres, 60% avec les insectes, 75% avec les reptiles, 90% avec les mammifères. Pourquoi cette précision ?
Eh bien, moi, ça m'a beaucoup émerveillé d'apprendre ça. C'est pour ça que j'ai tenu à le mettre dans cet ouvrage. Parce que, en fait, la culture dans laquelle on est a mis une sorte de distance entre nous et les éléments de la nature. Et de prendre conscience à un moment donné qu'en fait, on est vraiment cousins. Et on est déjà cousins par toute la question de l'évolution. On a des ancêtres communs. En fait, l'homme, l'animal qu'on est, a des ancêtres communs avec les différents éléments de la nature. Et ça se vérifie effectivement par l'ADN. Mais de se dire que le matériel génétique qui nous constitue, on le partage de manière très importante avec les éléments de la nature, moi, ça m'émerveille. Je trouve ça extraordinaire. Et donc, on a une sorte de co-sanguinité. Voilà. Il n'y a pas cette distance dans laquelle notre culture nous a mise. On est très proches, finalement.
Vous rappelez donc cette phrase aussi de Jean-Paul II, « L'évolution est plus qu'une hypothèse ». Donc c'est en l'occurrence donc la théorie de l'évolution, même si vous ne laissez pas entendre dans votre propos que nous sommes tout à fait semblables, évidemment, aux arbres ou aux insectes. Ensuite, vous continuez, nous sommes le fruit d'un acte, le fruit d'un amour dans l'acte créateur de Dieu. Et un peu plus loin, nous aussi, nous vous invitez en fait les retraitants, ou en tout cas tout à chacun, à éprouver profondément que tous les êtres sont créatures de Dieu, nés aussi de son amour. Expliquez-nous.
Eh ben là, en tant que la première chose, on est cousins quand on regarde l'évolution, mais en fait, on est cousins ou frères et sœurs avec les éléments de la nature en tant que croyants, parce que on croit que on reçoit toute la création et nous-mêmes d'un acte de création de Dieu, voilà, et d'un acte d'amour de Dieu vis-à-vis de toutes les choses qu'il a créées. Donc en cela même, pour moi, c'est extrêmement important de vraiment se recevoir comme créé par Dieu, et de voir que l'ensemble de la nature est aussi créé par Dieu, parce que c'est ça qui va fonder très profondément notre relation aux éléments de la nature. Et là, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'approche de François d'Assise, on est frères et sœurs avec les éléments de la nature parce qu'on a même père. Voilà.
Alors, donc vous faites un lien avec, donc vous dites que de fait on a une relation de fraternité en fait avec tout le monde créé. Mais est-ce que ça veut dire que il y a un projet d'amour de Dieu sur le moustique comme sur l'algue autant que pour nous en fait?
Ah ben je pense que Dieu a dans sa création s'il crée quelque chose, c'est qu'il désire cette chose, et désire que cette chose vive pour elle-même et pour sa beauté, pour ce qu'elle a à vivre. Donc oui, je crois vraiment qu'il y a cette volonté d'amour de Dieu.
Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi d'une forme d'idéalisation en fait de ce monde créé? J'ai souvenir de Sylvain Tesson, donc cet écrivain qui, je crois, donc a eu le prix Renaudot cette année, qui, dans son dernier ouvrage dont le nom m'échappe, partageait le fait qu'il a, comment dire, la création pour lui est d'abord un monde cruel. Il disait que quand la nuit tombe, c'est le carnage qui commence. Faut pas non plus idéaliser ce monde créé.
Non, quand je dis que Dieu a créé ces éléments pour eux-mêmes, pour ce qu'ils sont, j'idéalise pas non plus les lois de la nature, la loi de la jungle. Et évidemment, il y a dans la nature des choses qui sont dures, toute la prédation entre les animaux, la souffrance humaine, la douleur, tout ça. Il y a énormément de choses qui sont dans la nature qu'on ne peut pas idéaliser, évidemment. Mais ça n'empêche pas de considérer que tout cela a été créé par amour, par Dieu, et que ça a une origine, surtout. Ça a une origine, et une origine, on va dire, aimante, une origine bienveillante, voilà, qui est derrière.
Alors, ceci étant posé, à quoi invitez-vous à l'occasion de ce deuxième temps, donc de ce parcours, ce recevoir de Dieu avec toutes les créatures? Comment est-ce qu'on fait pour rentrer quelque part dans cette contemplation? Qu'est-ce que vous proposez?
Ben, personnellement, moi, ça fait 20 ans que chaque été, je passe 10 jours en pleine nature, sous la tente, dans le silence et avec la nature. Voilà. Et du coup, cette manière de faire éveille Les sens éveillent la capacité à s'émerveiller, à observer cette nature et à la recevoir en tant que telle. Voilà. Et non plus à se rapporter en tant qu'humain de manière utilisatrice par rapport aux éléments de la nature, mais simplement de regarder ces éléments de la nature pour eux-mêmes. Voilà. Et bien sûr d'éprouver au fond derrière cette volonté créatrice de Dieu.
Alors ça m'a fait sourire parce que vous êtes jésuite et qu'on sait que vos études sont longues et vous êtes assez cérébraux, vous dites la chose suivante: nous sommes trop dans la rationalité, l'intelligence cérébrale, laissez parler votre affectivité. Ça veut dire quoi? Vous appelez même à parler aux arbres, à embrasser les arbres. Ça m'a fait sourire, expliquez-nous.
Ben moi j'aime beaucoup faire ça. Je trouve ça formidable d'une certaine manière de se rapporter aux arbres, aux oiseaux, à un écureuil et d'une certaine manière d'entrer en relation, d'entrer dans une sorte de poésie avec ces éléments de la nature. Vous savez, moi je pense que la spiritualité franciscaine est quelque chose de très très précieux. Et pour nous jésuites, je dirais,
c'est presque un antidote pour vous.
Eh ben, on gagne. C'est un facteur d'équilibre, ouais, peut-être. Ouais, ouais. Je suis pas sûr que tous les jésuites soient pas fortement cérébraux. C'est l'image qu'on a parce qu'on a eu des grands auteurs.
Je suis pas sûr que tous les jésuites embrassent les arbres non plus.
Non, voilà. Mais ben voilà, moi j'invite les compagnons jésuites, mais évidemment tout le monde à rentrer dans cette poésie avec la nature. Ouais.
Vous rappelez que c'est très tendance, qu'il y a des sages de développement personnel qui invitent à faire ce type de geste. En tout cas, vous invitez aussi et surtout donc à prendre un temps de méditation à chaque fois à partir de l'écriture ou de d'autres textes et à demander une grâce. Ça, c'est très propre à la spiritualité jésuite pour que ce deuxième point, donc se recevoir de Dieu avec toutes les créatures, devienne, on va dire, cher.
Mais je vais vous dire... je me souviens d'une retraite que j'avais faite comme ça dans la nature, voilà, avec un parcours qui était semblable à celui-là. Et je me suis aperçu, à un moment donné, j'avais un très bel insecte qui s'était posé sur ma main et il avait une patte un peu abîmée. Et d'une certaine manière, j'étais un peu tout triste pour cette bête-là. Ça m'était jamais arrivé avant. Et je me suis dit, mais voilà, cette démarche-là fait rentrer dans cette espèce de bienveillance par rapport aux éléments de la nature et pour ce qu'ils sont eux-mêmes. Voilà. Et du coup, le regard en profondeur, je me suis aperçu qu'il avait changé. Et ensuite, et ben, d'être habité par ce regard, ben, ça change la vie. Voilà. Sans pour autant tomber dans une espèce de naïveté. Mais c'est quelque chose qui donne de la couleur à la vie, de pouvoir s'émerveiller et d'être dans une sorte d'amour des éléments de la nature.
Autre donc chapitre de votre ouvrage, reconnaître étant de cette retraite que vous proposez, reconnaître mon péché contre la création. On a commencé à en parler, et puis vous introduisez votre propos comme ça. Nous vous proposons maintenant d'essayer de discerner quel est votre péché personnel et d'entrer dans l'accueil du pardon de Dieu. Donc vous parlez de ces fameuses structures de péché dans lesquelles on pourrait être pris en fait quelque part en partie à son corps défendant sans s'en rendre compte. Le pape François aussi rappelle et en même temps vous que ceux qui cherchent refuge dans la prétendue impossibilité de changer le monde sont aussi responsables de cette désespérance et donc de ce péché social. Le pape François aussi parle de la rapidatione. Est-ce que vous pouvez en dire un mot de cette rapidation?
La rapidation, c'est-à-dire le fait de courir un peu tout le temps. Le pape François, effectivement, pointe cette manière de vivre et qui est en train d'empoisonner notre société, notre culture, nos rapports humains. Effectivement, on est dans une société qui nous entraîne à toujours courir, à passer d'une chose à l'autre sans vraiment les goûter, sans vraiment prendre le temps d'y être présent, que ce soit dans les relations, dans le rapport aux choses. Cet état d'esprit est aussi à la source de la destruction de l'environnement. C'est pour ça qu'il le pointe vraiment. Et puis, nous empêche de vivre... dans cette profondeur de vie, de présence au présent. Voilà.
Alors là, vous êtes très clair, vous posez en fait des questions, vous invitez en fait tout un chacun à se poser des questions très concrètes. Peut-être que mes émissions de CO2 ont contribué, même de manière infime, à la migration climatique des paysans qui ont perdu leurs terres. Peut-être que le vêtement que je porte a été fabriqué au Bangladesh ou ailleurs dans des conditions indignes et misérables. Peut-être que sans vouloir vraiment, j'ai un jour troqué, dans un hypermarché, la vie d'un pauvre pour une paire de sandales, et là vous citez Amos. Il faut aller jusque-là dans le niveau d'interrogation.
Oui, il faut y aller, mais il faut faire attention. C'est-à-dire, d'abord, quand on considère son propre péché, c'est toujours en même temps en considérant l'amour que Dieu a pour nous. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas se charger d'une culpabilité qui nous laisserait complètement désemparés. On est toujours très profondément aimé de Dieu, et c'est au cœur de nos limites, de nos manques d'amour, qu'on peut éprouver l'amour de Dieu. Donc ça c'est vraiment fondamentalement la démarche qu'on a à avoir. Ensuite, effectivement, on a à s'interroger, à essayer de voir clair, et c'est difficile, la chose est complexe. Si à un moment donné, j'ai heurté quelqu'un parce que je l'ai ridiculisé ou je lui ai mis un coup de poing, c'est clair et net, j'ai porté un préjudice à quelqu'un et l'acte est clair et net. Par contre, dans la situation écologique d'aujourd'hui, là, c'est beaucoup plus complexe. D'essayer de prendre du temps, de se documenter, de lire, d'intérioriser, pour essayer de comprendre le lien entre ma manière de vivre et la destruction de l'environnement, ça, c'est un travail à faire. Voilà. Et au cœur de ça, alors, je peux peut-être, à un moment donné, me rendre compte que, par exemple, si je vais aller faire, je prends l'avion et que je vais aller me faire 10 jours de vacances en Thaïlande pour faire du surf sur les plages, ce que m'a raconté un jeune que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, peut-être que là, oui, je peux m'interroger quand même. Parce que mon voyage en avion va émettre de manière très importante du CO2 et que l'accumulation de CO2 est en train de porter préjudice très concret à des paysans au Bangladesh qui perdent leur terre à cause de la montée des eaux, à cause du réchauffement climatique.
Voire s'interroger aussi sur le tourisme éthique. Il y a des choses qui...
Voilà.
Certaines réflexions autour de...
Voilà. Et puis la dépense aussi financière, alors que des personnes, par ailleurs, ont très peu. Enfin, donc le manque de partage, voilà.
Oui. Le pape François, vous citez donc largement Laudato Si, il n'y a pas de frontières ni de barrières politiques ou sociales qui nous permettent de nous isoler. Et pour cela même, il n'y a pas non plus de place pour la globalisation de l'indifférence. On passe à un autre chapitre, joie et espérance d'un monde renouvelé. Vous commencez en citant les pères de l'Église qui aiment à souligner que la mort n'a pas trouvé de quoi se nourrir dans l'être du Christ, et est morte de faim. Donc vous nous braquez les yeux sur le Christ ressuscité. Pourquoi est-ce que vous commencez par ça ?
En fait, je le fais après avoir considéré la passion du Christ. Au moment de la passion du Christ, ce qui est intéressant à contempler, c'est qu'au cœur de la violence humaine, Dieu nous dit, par la manière dont le Christ a vécu la passion et sa vie et la passion, Dieu nous dit qu'il a une confiance totale en l'homme, qu'il a toujours un regard positif en l'homme. Voilà, c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire, dans la situation auquel on fait face du point de vue de la destruction de l'environnement, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut être vraiment dramatique, Dieu a toujours confiance en l'homme. Dieu a toujours ce regard positif, et donc on peut se laisser habiter par ce regard, et parce que Dieu nous l'a exprimé au cœur de la violence qui est celle de la croix.
Alors vous faites un parallèle étonnant, excusez-moi je vous coupe, pour les disciples de Jésus, sa mort sur la croix était un véritable effondrement, et puis vous continuez, actuellement de nombreuses voix parlent d'effondrement au sujet de la planète, vous parlez donc de la collapsologie. Et puis aujourd'hui, on parle aussi de dépression verte, de névrose climatique, de véritables angoisses, parfois de maladies très concrètes. Pourquoi ce parallèle ?
Eh bien, parce que justement, ce qui est très étonnant, c'est que les disciples étaient dans cette situation d'effondrement extrêmement qui pouvait les préoccuper et les mettre dans une tristesse considérable. Et aujourd'hui, on est menacé de ça. Eh bien, les disciples ont vécu quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils ont vécu la présence du Christ ressuscité et qui les a complètement dynamisés. Voilà. Et qui fait qu'ils sont, ils sont sortis, au lieu d'être barricadés, claquemurés, ils sont sortis et ils sont allés partout dans toute la région avec cette force de l'esprit, cette force de cette foi en Jésus ressuscité qu'ils ont rencontré. Eh bien, je pense que nous, on a, c'est vraiment une très belle perspective pour nous, c'est-à-dire d'être habités par cette foi en Jésus qui a traversé la mort et qui est ressuscité, ça c'est, je pense, une ressource très, très profonde pour avoir de l'espérance dans la situation dans laquelle on est et dans laquelle on va se trouver.
Alors expliquez-nous, ou prenez un exemple dans ces cas-là. Comment on fait le lien entre la foi en la résurrection du Christ et, on va dire, la possibilité qu'on aurait de surmonter la crise actuelle, voire une espèce de névrose climatique dans laquelle on serait prise?
Eh bien, c'est...
C'est qu'il y a d'abord une racine, c'est que la réponse est d'abord spirituelle, en fait, à cette, c'est ça qu'il faut entendre ?
Elle va être habitée spirituellement, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut se trouver devant une situation, c'est le cas pour beaucoup, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça ? On a l'impression que le monde est en train d'avancer comme un rouleau compresseur et va complètement dans le mur. Et du coup, on est complètement désemparé. Eh bien, d'aller rechercher au plus profond de nous-mêmes et avec l'aide des Écritures et de cette bonne nouvelle de l'Évangile, que Dieu croit toujours en l'homme. Et donc, je ne sais pas quelle va être la solution, je ne sais pas quelle va être l'issue, je ne sais pas comment on va faire, mais je crois profondément que l'homme est capable de se redresser et que Dieu, avec sa puissance d'amour qui habite le monde, je crois qu'elle habite vraiment le monde, que quelque chose... Il va naître à travers ça, mais je ne sais pas comment aujourd'hui. Voilà, c'est ça pour moi, je puise dans la contemplation de la passion de la résurrection du Christ.
Le monde est plus qu'un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la louange, dit le pape François dans Laudato Si, que vous citez aussi. Voilà donc quelques extraits de ce parcours que vous proposez. On va, à la fin de cette émission, essayer de prendre aussi un peu par la main les auditeurs, pour ceux qui se seraient lancés dans une démarche de conversion écologique, pour reprendre le titre de votre ouvrage, puisqu'à la fin, vous donnez quelques conseils de sagesse, très ignatiens, pour ne pas se décourager ou pour avancer pas à pas. Thank you.
Radio Présence à Saint-Céré, 95.8. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Parcours spirituel pour une conversion écologique, c'est donc le titre de l'ouvrage de mon invité de ce matin, Jérôme Gay. Vous êtes religieux jésuite et délégué du provincial à l'apostolat social pour la province Europe occidentale francophone. Et cet ouvrage donc est paru aux éditions Vie chrétienne et fidélité. En cette fin d'émission, je voulais quelques conseils de sagesse à la lumière un peu de la spiritualité ignatienne. Avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire chez les jésuites? Vous nous avez laissé entendre en première partie que vous étiez aussi responsable de la transition écologique dans cette même province. Vous en êtes où? Vous pouvez nous citer quelques pas que vous avez fait avec vos frères?
Ah, on essaye d'avancer. On n'est pas bien loin, mais on essaye d'avancer. Je pense dans la transformation de nos modes de vie. Des gestes très concrets, hein, que ce soit bien sûr le tri des déchets, d'avoir des bacs à compost, une voiture électrique, de manger moins de viande. Je pense que la transformation de l'alimentation est un sujet qui n'est pas facile, hein, mais quand on est en communauté, mais c'est des éléments sur lesquels on travaille concrètement. Et puis aussi dans la manière dont on peut gérer des centres spirituels. Je vois le centre Penbock, ils ont évolué. La manière de rénover les bâtiments, bien sûr, on fait attention à tout ce qui est isolation, énergie renouvelable. On s'y met, voilà.
Et quid de la plus grande justice sociale, l'attention à une plus grande justice sociale dans nos comportements, puisque c'est l'autre volet aussi de cette conversion écologique. Ça prend quelle forme dans la Compagnie de Jésus en France?
Il y a un exemple très concret, c'est avec JRS France. Avec le programme Welcome.
Rappelez ce que c'est, JRS.
Donc, JRS France, c'est l'organisme qui a pour mission d'accueillir et d'aider les demandeurs d'asile qui arrivent en France, et avec différents programmes, notamment celui de l'accueil dans les familles pendant un mois d'un demandeur d'asile qui est à la rue pour qu'il puisse au moins avoir un toit et découvrir la vie française de l'intérieur, et les familles se relayant de mois en mois, permettant ainsi à quelqu'un d'être à l'abri. Et donc les communautés l'ont fait, et c'est une très belle ouverture pour les communautés d'accueillir chez soi.
Vos communautés jésuites ont elles-mêmes commencé à accueillir.
Voilà, des demandeurs d'asile là, depuis plusieurs années. Voilà, c'est une manière de s'ouvrir sur l'aspect social. Bien sûr, on a aussi des communautés qui sont dans des quartiers populaires et qui participent à la vie des quartiers et à la solidarité dans ces quartiers-là, par exemple.
Alors, au long de ce parcours, vous invitez, donc, si je ne me trompe pas, dans la tradition des exercices de Saint Ignace, donc à pas cérébraliser ce grand mouvement de conversion intérieure, mais à se laisser aussi toucher, à éprouver les choses. Et pour autant, dans votre conclusion, vous dites la chose suivante, qu'il ne faut pas en rester seulement à des moments forts ou à des résolutions généreuses. Expliquez-nous cette contradiction apparente.
C'est-à-dire, quand on fait une retraite ou un parcours spirituel, on peut être habité par quelque chose, justement, un mouvement intérieur fort. Puis après, on reprend la vie quotidienne et les choses peuvent s'étioler. Voilà. Donc, c'est une conversion, c'est aussi quelque chose qui est à cultiver, à entretenir, de prendre régulièrement des temps, revenir à ce qu'on a pu vivre dans un temps fort pour que ça se transforme en acte concret, que ce soit dans la transformation de nos modes de vie ou bien dans la participation dans la société à des mouvements ou des actions qui vise à la transformation des modes de production, des modes d'organisation de la société pour qu'ils soient plus écologiques.
Après, vous appelez à la multiplication des petites actions qui ne sont pas révolutionnaires, mais qui peuvent aider à maintenir la flamme. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez prendre des exemples?
Un jour, j'avais quelqu'un qui me disait, parlant de quelqu'un qui est un gros poste dans la banque et qui, avait peut-être mis en place un compost chez lui, et ridiculisait sa démarche en disant il ferait mieux de s'occuper de ce que fait sa banque dans ses investissements, qui continue à investir sur, par exemple, dans les énergies fossiles, des choses comme ça, au lieu d'essayer de favoriser les énergies vertes, et plutôt que de faire du compost. Moi, ce que j'ai répondu à ça, c'est que le fait de se laisser envahir sa propre vie personnelle par des petits gestes qui montrent, qui entraînent dans un autre rapport à la nature et au respect de l'environnement, peut aider ensuite à savoir utiliser ces marges de manœuvre qu'on a dans son activité professionnelle ou d'utiliser sa capacité citoyenne pour peser sur la vie politique pour un changement plus important, évidemment, et plus lourd de conséquences que simplement son petit compost sur son balcon.
Voilà, un pas après l'autre, vous en citez quelques-uns dans votre livre et dans la conclusion. Donc, il y a Tech 3. 3 déchets non biodégradables chaque jour, c'est-à-dire on se promène et puis on se dit tous les jours qu'on en ramasse 3 et qu'on les met dans la bonne poubelle. Il y a noté sur son agenda une action collective, au moins une fois par an, je crois, à vous lire. En tout cas, c'est ce à quoi vous vous incitez. Il y a par exemple la journée du 15 septembre, qui est chaque année donc la journée internationale de nettoyage de la planète. Et puis, autre proposition concrète, vous dites inscrire aussi sur son agenda ou essayer de trouver sa place dans la saison de la création qui est chaque année entre le 1er septembre et le 4 octobre, qui n'est pas très connu encore, avec au cœur donc, la journée chrétienne de la sauvegarde de la création. Jérôme Guay, si on a envie d'aller plus loin, est-ce qu'on peut déjà trouver sur un site internet quelque part, peut-être même pour cet été, je ne sais pas s'il y a des centres de retraite qui vont proposer des retraites, pour vivre ce parcours spirituel pour une conversion écologique, comment on fait ?
Alors, pour faire une retraite, eh bien, vous pouvez aller sur le site Notre-Dame du Web. Là, vous aurez un peu toutes les retraites ignatiennes et vous pourrez trouver les éventuelles propositions qui ont une teneur écologique. Ensuite, rejoignez tout ce qui s'organise dans vos diocèses autour de l'écologie. Ici, dans le diocèse de Toulouse, il y a donc...
Alors, on s'adresse à presque l'ensemble de la région, donc en tout cas dans chacun des diocèses de la province ecclésiastique de Toulouse.
Voilà, dans chaque diocèse, il y a des référents, Laudato si, et les diocèses essayent d'organiser et de faire vivre les choses. Vous avez le mouvement Église verte, donc là, c'est un très très bon soutien pour une communauté chrétienne, une paroisse par exemple, pour entrer dans une démarche de conversion écologique avec des choses très concrètes. Donc là, vous tapez « Église verte » sur Internet et vous trouverez, c'est fait par l'Église de France et il y a maintenant des centaines et des centaines de paroisses qui se sont engagées dans ce mouvement-là.
Pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler d'une web-série qui a été éditée par le CERAS ? Donc le CERAS, c'est le Centre Recherche et d'Action Sociale dont vous êtes le président, qui est donc une émanation des jésuites. Vous avez donc créé, semble-t-il, une web-série appelée « Clameur ».
Oui, alors le CERAS cherche à promouvoir la doctrine sociale de l'Église et notamment Laudato si en France, au sein de l'Église et puis bien au-delà, par des publications, notamment la revue Projet que je vous recommande, qui est une très belle revue sur les questions sociales en France sur les questions de société et d'écologie. Et donc ils ont, on a créé une web-série que vous pourrez trouver qui s'appelle Clameur et qui propose à partir de 5 thématiques de Laudato si, des documentaires sur ces 5 thématiques et une petite série fiction où c'est 3 jeunes dans une coloc qui essayent de vivre et de mettre en œuvre Laudato si. Il y a une quarantaine d'épisodes de quelques minutes, certains avec beaucoup d'humour. Et donc, c'est une belle manière aussi de se documenter et aussi de voir ça de manière plaisante.
Eh ben merci Jérôme Guay d'être venu nous présenter donc ce parcours spirituel pour une conversion écologique avec ce sous-titre « L'appel de Laudato si ». C'est paru aux éditions Vie chrétienne et Fidélité. Un grand merci à vous.
On trouve le livre à Siloé à Toulouse.
Voilà, à Siloé à Toulouse et puis dans toutes les librairies religieuses de la région puisque vous nous écoutez plus largement et au-delà de Toulouse et que parfois Toulouse est loin pour vous. Merci Jérôme Guay. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h. Ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact@radioprésence.com.